Ja.
Minutes d'infos choisies
chaque vendredi sur Radio Galère 88.4.
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Bonjour à toutes et à tous. C'est les infos choisies. Nous avions prévu un direct pour ce vendredi 31 décembre. Finalement, nous nous sommes engagés sur un best-of de l'année 2021. On a fait des heures et des heures d'écoute, sélectionné des extraits et partagé nos oreilles pour la cohérence du montage. Il n'y a pas tout, puisque les infos choisies, c'est chaque vendredi de 12h30 à 13h. Ça aurait été beaucoup trop long. Il n'y a rien, par exemple, sur les centres de rétention administratifs, ni sur les autres prisons. Mais on n'oublie pas les personnes enfermées. Il n'y a pas grand-chose non plus sur le Covid et les situations complexes que ça génère dans les vies quotidiennes. Il y a par contre un tas d'autres choses. Dans ce créneau, en général, on relaie les luttes de Marseille et d'ailleurs. On donne un agenda sur les événements à venir. On tend nos micros. Il y a des chroniques, de la musique, des interviews, des cartes postales sonores. On rend aussi parfois hommage aux morts qui nous touchent, comme celle de Belloux il y a quelques jours. Les émissions sont réécoutables sur le site de Radio Galère. On aurait aimé faire un best-of léger et drôle, mais ça ne reflèterait pas nos infos choisies. Et surtout, face à la lourdeur de ce monde, il est parfois difficile d'y trouver de la légèreté. On se retrouve la semaine prochaine pour un direct cette fois. En attendant, on souhaite un bon courage aux personnes qui sont seules et qui ne l'ont pas choisi. On souhaite un bon courage aussi aux Covidés et qui sont en quarantaine. Et enfin, on souhaite un bon courage à celles et ceux qui ont enterré des proches ces derniers jours. Pour précision, à la fin du montage, il est abordé une exposition sur la question du VIH au MUCEM à Marseille. Elle a toujours lieu et ce sera le cas jusqu'au 2 mai 2022. Bonne écoute et à tout bientôt.
Eh ben, on est le vendredi 22 janvier 2021 et on va commencer par les vœux de Yasmina Ketal.
Bonsoir à toutes et tous. Si je suis la présidente d'un jour sur Mediapart, c'est avec la lourde responsabilité d'essayer de représenter les premiers de corvée. Celles et ceux dont certains ont découvert le caractère indispensable face à l'épidémie. Je parle des soignants, comme moi, infirmière en Seine-Saint-Denis, mais aussi de tous les autres travailleuses et travailleurs de l'ombre, avec ou sans papier, qu'ils soient livreurs, éboueurs, transporteurs, caissières, femmes de ménage et aides à domicile. Je dois avouer qu'il n'a pas été très simple d'écrire les vœux d'une année qu'on aimerait pouvoir en grande partie effacer de notre mémoire. Pas simple non plus, une nouvelle fois de s'exprimer sur une situation qu'on a inlassablement rabâchée. Car oui, si ce virus est entré par effraction dans nos vies, il l'a malheureusement fait en validant le constat porté pendant des mois par une mobilisation hospitalière sans précédent. Un mouvement dont le seul but était d'obtenir les moyens nécessaires pour vous soigner et qui redoutait la situation actuelle. Avoir fait face à autant d'aveuglement, d'entêtement et de mépris rend la situation plus cruelle encore. Si année après année, chaque attaque contre l'hôpital a laissé des traces, le Covid, lui, a laissé derrière lui un cratère. Je pourrais vous faire une liste de toutes les choses immondes vues et vécues durant cette crise, mais aussi celles qui rythment notre quotidien depuis bien trop longtemps.
Bonjour et bienvenue aux Infos Choisies. Nous sommes le vendredi 26 février 2021 et il est midi et non pas midi 30 exceptionnellement. L'émission est décalée à midi cette semaine et la semaine prochaine.
Alarm phone, hello.
Hello, my friend.
This is Watchman
Alarm Phone.
Hello, my friend. This is Alarm Phone.
How are you, my friend?
I hear you.
Can you hear me?
Hello, my friend.
Okay, can you give me your GPS position?
Can you give me your GPS position?
Chronique amère.
Chronique amère.
Chronique amère.
Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarmphone. Freedom, item, meet them.
Where's your freedom? Can you hear me?
Give me your GPS position.
Okay, I call you back.
What kind of boat are you on?
Can you give me your GPS position?
How many are you on the boat?
I hear you.
Can you hear me?
Okay, I call you back.
I will call you back.
Try calling again, because right now I can't hear anything.
La Méditerranée est devenue un cimetière.
Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée.
Parce que la mer Méditerranée est une frontière.
Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme.
Parce que le racisme et le colonialisme tuent.
Parce qu'en 2020, 1760 personnes sont mortes en traversant.
147 personnes par an.
34 personnes par semaine.
Près de 5 personnes par jour.
Et bien bien plus dont on ne sait rien.
Parce que des histoires existent derrière les chiffres.
Parce que ces histoires doivent être racontées.
Parce qu'on veut continuer à lutter.
Parce qu'on ne veut pas oublier.
Parce qu'on ne veut pas s'habituer.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la première édition de Chronique amère. Alors dans cette chronique mensuelle, on parle depuis Alarmphone, c'est-à-dire que nous toutes et tous autour du micro sommes membres du réseau activiste Alarmphone. Et pour vous donner un aperçu de ce que c'est, on va utiliser l'image d'une amie de Leipzig qui dit que Alarmphone, c'est une sorte de legal team de la mer. Alors une legal team, équipe légale, ce sont des gens qui s'organisent pour que dans des situations avec des enjeux de répression, par exemple des manifs, des grèves, des occupations, un maximum de personnes puissent connaître leurs droits et se défendre, si elles sont arrêtées, emmenées par la police par exemple. Alors si des personnes traversent la Méditerranée et sont en détresse, elles peuvent appeler Alarmphone. Et on travaille alors ensemble à ce qu'elles soient secourues, conformément aux droits maritimes, et surtout soient débarquées dans un port sûr, c'est-à-dire dans un endroit dans lequel elles seront en sécurité. Le fait d'appeler Alarmphone, c'est une question de communauté, d'information et de pratique. Par exemple, si nous sommes en lien avec de nombreuses personnes subsahariennes qui traversent depuis la Libye vers Malte ou vers l'Italie, nous sommes très peu sollicités par des Libyens ou des Libyennes qui font le même trajet, mais s'organisent avec d'autres ressources et fonctionnent avec d'autres réseaux. Ce qui fait que nous avons à la fois un aperçu assez complexe et vaste de la frontière méditerranéenne et néanmoins très partiel. Nous tenons une permanence téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis 6 ans et nous partageons un calendrier, des outils, des savoirs, un réseau, des rencontres, une langue commune, enfin plein de langues communes, mais notamment l'anglais d'Alarmphone qui est plein d'acronymes techniques et une conviction très simple, les frontières servent des politiques racistes et coloniales menées par les États européens en Afrique et au Moyen-Orient depuis des siècles. Ainsi, nous sommes pour l'abolition des visas, pour la liberté de circuler et de s'installer de chacun et de chacune, contre l'externalisation des frontières de l'Europe, pour leur destruction pure et simple.
Notre regard sur l'actualité. Chaque vendredi de 12h30 à 13h, retrouvez les infos choisies.
En direct de la friche, il fait un temps radieux comme prévu.
27e test Covid, notre 1238e litre de gel hydroalcoolique.
Les lycéennes et les lycéens se mobilisent presque seuls pour afficher notre refus de voir le pouvoir public marseillais tourner le dos à la crise du logement.
À tous les membres des minorités, nous adressons ce message. Soyez forts, prenez soin de vous et de vos proches.
Des brèves.
Des dossiers.
Des billets d'humeur.
Des interviews.
De la musique.
Un décompte calendaire.
Des revues de presse.
Des cartes postales sonores.
Des intros, des interviews, des rendez-vous.
Des reportages.
Des ambiances de manif.
Des invités.
Des témoignages.
Des billets d'humeur.
Des luttes.
Des actualités.
Les infos choisies, c'est chaque vendredi à 12h30. En direct sur Radio Galère 88.4 FM. Et en réécoute sur radiogalère.org.
Yo, les infos. Je vous envoie quelques mots depuis pas loin de la frontière. Celle de l'Est. Là où les montagnes descendent jusqu'à la mer. Je l'ai traversée récemment. Je suis passée d'un côté à l'autre tranquillement, même en pandémie. On ne m'a rien demandé, ni papier, ni test Covid, ni attestation. Ouais, je suis blanche. Je vous avais donné quelques nouvelles en janvier qui laissaient imaginer des possibilités de changement.
ou en tout cas des possibilités d'action pour changer la situation des personnes qui se font systématiquement refouler à l'entrée en France. Malgré la reconnaissance par des tribunaux de l'illégalité de ces refoulements, rien n'a changé. Les personnes continuent à se faire enfermer sans accès aux choses les plus fondamentales. De l'eau, de la nourriture, de quoi avoir chaud et pouvoir demander l'asile en France. Elles se font toujours enfermer dans ces espèces de containers, des locaux qui eux aussi ont été reconnus comme illégaux. Mais récemment, les durées d'enfermement semblent plutôt avoir augmenté, parfois jusqu'à 48 heures. Les personnes qui font du soutien à la frontière avaient imaginé pouvoir accumuler les preuves de la continuité de ces pratiques illégales de la police aux frontières françaises en photographiant les refus d'entrée. Mais demander un papier à une personne qui vient de se faire enfermer, maltraiter, refouler parce qu'elle n'a pas les bons papiers, c'est un peu délicat. Lui offrir à manger, à boire, de quoi se réchauffer, du soutien moral et logistique semble bien plus approprié. En plus, une grande partie des personnes se débarrassent vite fait de ce papier qui les encombre, qui prouve encore et toujours leur illégalité, qui met à mal leur légitimité à vouloir la traverser, cette frontière. Généralement, au bout de 5, 6, 7 tentatives, parfois même plus, ces personnes vont finalement parvenir à la traverser, la frontière. Bref, rien n'a trop changé sur le front de l'Est. Bon, ben, comme d'hab, j'espère pouvoir vous donner des nouvelles un peu meilleures très bientôt.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur Radio Galère 88.4 ou sur le net à je ne sais plus quelle adresse. Il est midi 31, c'est les infos choisies comme tous les vendredis.
Chronique, bouffée d'air, volet 2. Avec les pertes de repères liées à cette période de crise sociale, j'ai besoin d'énergie et d'inspiration, de radio et de poésie. Je suis allée tendre mon micro à la manif du 7 mars, aux copines féministes, pour qu'on parle de voix, de personnes qui nous donnent de la force, qui nous donnent envie de nous battre et de lutter.
Bonjour à vous et bonjour à tous vos élèves, bonjour à tous. Je voulais un petit peu pouvoir échanger avec vous. Et surtout vous remercier les enseignants, tous les élèves et leurs familles, parce que je sais que c'est un travail aussi d'adaptation. Mais en tout cas, moi, je voulais vraiment vous remercier, à travers vous, remercier également vos parents. C'est important de perdre le moins de temps scolaire possible durant cette période. On doit freiner le virus, mais continuer à apprendre.
Une petite carte postale pour la spéciale boulot. Je viens de commencer un nouveau boulot. Je suis éducatrice en masse. Maison d'accueil spécialisée. C'est tout nouveau pour moi. Avant, j'étais cuisinière dans des restos, des gîtes, sur des événements. Maison d'accueil spécialisée, ça veut dire, dans le cas dont je vous parle, une maison de 8 personnes adultes, polyhandicapées et ou autistes. Une grosse coloc, en somme. Avec beaucoup de travailleuses qui viennent t'aider à la vie quotidienne. Nettoyer, laver, manger, changer, jouer... Réfléchir, rire, pleurer, soigner, craquer un coup, prendre le soleil dans le jardin, aller se promener, cuisiner, faire de la musique, se parler avec les mains, les pieds, les yeux, danser, aller chez le médecin, plier le linge, chercher pourquoi l'une ou l'autre tire la gueule, prendre l'apéro, recevoir une famille qui passe en éclair, chercher son fils, sa fille, son frère, son pote. Cette liste n'est pas exhaustive, vous l'imaginez bien. Ben, tout simplement, je voudrais, avec un grand V, dire merci et bravo à l'équipe qui bosse là. Je vais pas faire l'apologie du travail d'accompagnement qui est fait là avec les résidentes. J'ai pas trop les billes, je me sens pas trop capable, je débarque. Je vois pas trop encore vraiment les qualités et les défauts du boulot des gens. En fait, j'avais juste envie de vous décrire comment j'ai été accueillie. Ce que je perçois en quelques semaines de ce paquet de meufs, dont le travail est difficile, et qui sont maltraitées, comme beaucoup, soit par la période Covid de merde, soit par des institutions au fonctionnement larvé et manquant d'argent, et qui subissent des décisions d'État, Ça faisait longtemps que j'avais pas eu à travailler en équipe. De façon durable, quoi. Parce que je passais souvent en coup de vent dans des lieux où je faisais des extras. Et puis là, je débarque dans cette équipe qui est toute chamboulée par des départs en retraite. Des départs de remplaçantes. Et des départs tout court, de titulaires qui vont voir ailleurs si elles y sont. Le turnover dans les équipes, il faut se le carrer quand c'est toi qui restes et qui vois passer les autres. Parfois, des novices, comme moi, qui ont beaucoup à apprendre, des stagiaires en tout genre.
Les infos choisies, vendredi, midi
30. Les infos choisies, vendredi,
midi 30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Hashtag SOS Colombien. Il nous tue. Communiqué à l'opinion publique nationale et internationale. 6 mai 2021. Nous sommes des lesbiennes féministes de la Colombie et, avec inquiétude, douleur et indignation, nous voulons dénoncer devant les yeux de l'Amérique latine et du monde le massacre de notre peuple. Aujourd'hui, nous élevons notre voix contre les mesures néolibérales et nécropolitiques d'un État négligent et meurtrier qui, du gouvernement actuel d'Ivan Duque et du Parti du Centre démocratique dirigé par l'ex-président Álvaro Uribe Vélez, celui que nous considérons comme le plus grand génocidaire du peuple colombien, compte continuer à enrichir les plus riches et à appauvrir et assassiner les plus pauvres. Depuis le mercredi 28 avril 2021, il y a eu un grand soulèvement populaire qui a envahi les rues de la Colombie depuis ses différents secteurs. La motivation initiale était de renverser la dernière réforme fiscale du gouvernement Duque, laquelle cherchait à faire que les secteurs les plus touchés actuellement par la pandémie assument avec leurs économies précaires le déficit budgétaire généré par la mauvaise gestion et la corruption. La réforme devrait plutôt viser le budget investi dans la guerre, la réduction des salaires des magistrats, des sénateurs, des membres du Congrès, des hauts fonctionnaires, en effectuant un contrôle politique et fiscal fort pour éliminer la corruption qui nous afflige depuis des décennies, ainsi qu'en percevant les justes impôts sur le grand capital national et les capitaux internationaux privés qui utilisent aujourd'hui notre main-d'œuvre et nos ressources naturelles. La grande mobilisation au niveau national des secteurs populaires a fait que le dimanche 2 mai, le président Ivan Duque a annoncé le retrait de la dite réforme et que, plus tard, le ministre des Finances Alberto Carrasquilla a toutefois démissionné de ses fonctions. L'intention du gouvernement était que ces événements renvoyassent la population à l'apparente léthargie dans laquelle ils ont réussi à la maintenir pendant des décennies. Cependant, il est clair pour ceux d'entre nous qui connaissent l'autre ou les autres histoires de la Colombie que ce peuple n'a pas été endormi, mais a été effrayé par une oligarchie sanguinaire qui, face à un éventuel bourgeon de transformation sociale politique et bien sûr de transformation économique du pays, a réagi de la manière la plus violente, exterminant chaque personne et mouvement qui s'oppose à leurs intérêts de classe, en complicité avec les multinationales, les médias de masse, les forces militaires, les paramilitaires et les réseaux de narcotrafiquants. Toute cette histoire de guerre dans l'un des pays les plus violents et inéquitables du monde n'a pas éteint l'espoir de la majorité qui était en plus déjà fatiguée de tant d'abus. Les nouvelles générations populaires ont plein de raisons de vivre dans le no-futur et ils ont perdu leur peur parce que les conditions ne sont pas suffisantes pour résister longtemps dans un pays qui n'offre pas de garantie pour la satisfaction des besoins les plus élémentaires. Pour cette raison, et même sans savoir très bien comment réaliser collectivement ce que nous voulons dans un pays dont les rêves ont été tant de fois tués, nous avons de nouveau manifesté contre le mauvais gouvernement de Duque le lundi 3 mai. Ce même jour, le génocidaire Álvaro Uribe Vélez émet un tweet sur Twitter qui nous plonge dans une grande incertitude car il se réfère à l'attaque d'une révolution moléculaire dissipée. Ce concept fait partie de la doctrine de la sécurité nationale et de l'ennemi interne, où l'on suppose que toutes les personnes qui s'opposent au gouvernement et manifestent sont des guérilleros qui participent à un plan de l'extrême gauche pour déstabiliser la démocratie.
Le pays vit de manière dure la dictature d'un gouvernement fasciste, néolibéral, en association avec des groupes paramilitaires et avec des forces armées, endoctrinées, qui voient le peuple comme leur ennemi. Toute la population civile qui s'oppose à ce gouvernement est aujourd'hui une cible militaire.
Info difficile, on va continuer avec une lettre ouverte des habitants sinistrés des Flamands, habitants et habitantes sinistrés des Flamands. Donc les Flamands, c'est ce bâtiment qui a brûlé, faisant 3 morts à Marseille il y a 2 semaines et demie maintenant. C'était aux alentours du 19 juillet, si je dis pas de bêtises.
La mec, elle est en train de mourir, voilà. La mec, appelez les pompiers, voilà. Appelez les pompiers, par là. Appelez les pompiers. Par là.
Écartez-vous.
Qu'est-ce que écartez-vous? Qu'est-ce que écartez-vous? Vous êtes des fous ou quoi? Vas-y, 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 voilà. Vas-y, voilà. Vas-y, voilà. Regarde, regarde toi, regarde. Tu es un fou toi, tu es un fou de ta tête. C'est ça genre, c'est ça la loi. C'est ça la loi. Elle n'a pas le droit, voilà, elle n'a pas le droit. Appelle des renforts, appelle des renforts. Appelez des renforts.
Extrait d'une vidéo qui a été publiée hier sur YouTube et qui donne un peu le ton de l'ambiance à quelques secondes, quelques minutes après la mort de Souil. Souil, un jeune de 21 ans qui est mort donc avant-hier, c'était mercredi 4 août aux alentours de 19h, aux alentours de la place Cadena dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille. Donc c'était dans les rues, des rues à l'angle de la rue Fortuné Jourdan et de la rue Despieux. On a appris la nouvelle dans le quartier de la Belle de Mai, puisque Radio Galère est à la Belle de Mai, par les connaissances et par les gens du quartier. Et très vite, les journaux se sont empressés de titrer la mort de ce jeune homme, alors avec des titres un peu détournés, un jeune blessé mortellement par des policiers suite à un contrôle qu'il a refusé, un policier blessé, un jeune homme, des titres un peu dégueulasses qui ont été relayés du coup par les médias suite à la dépêche de l'AFP qui donnait ces détails. En sachant que l'AFP a forcément ses informations par le biais de la police, et donc c'est une version policière qui a été relayée dans la plupart des médias. Heureusement, aujourd'hui, un communiqué est paru et vient de nous parvenir il y a quelques minutes à peine, avec de nombreux témoignages de voisins et de voisines qu'on va pouvoir vous lire à l'antenne. Donc c'était le lendemain du drame, un autre son de cloche au contact des habitants et habitantes du quartier. Les voisins ont en effet assisté à la scène depuis le début. Et comme un des 3 amis présents, c'est une autre version qui déroule. Ils sont encore sous le choc, donc des témoignages qui nous disent « On s'est mis au balcon parce que les policiers étaient extrêmement agressifs ». Ça, c'est une des voisines profondément choquées qui était présente juste en face. On ne comprend pas ce qui s'est passé, c'était un contrôle de routine. Les jeunes étaient tous calmes, il n'y a eu aucun cri, ajoute un grand-père qui lui aussi était présent au balcon.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, c'est le vendredi 1er octobre 2021 et c'est parti, il est 12h30, c'est parti pour une demi-heure d'info choisie.
Grève des éboueurs à Marseille, négociation entre les syndicats et la métropole. Quand on parle de la métropole, ce n'est pas juste la ville de Marseille, c'est la métropole ex-Marseille-Provence, une collectivité territoriale créée en 2016 qui rassemble 92 communes. Les agents publics en charge du ramassage des ordures dénoncent une hausse du temps de travail imposé par la loi, sans aucune compensation financière et avec perte des heures supplémentaires. Donc, travailler plus, sans gagner plus.
Bonjour. Bonjour, vous êtes bien sur les infos choisies 12h30 et nous sommes le 15 octobre 2021. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un édito ou une introduction un peu construite, mais plutôt quelques ficelles qu'on a envie de relever, même si on ne les tire pas complètement aujourd'hui, par rapport un peu à tout ce qui se passe dans les grands médias, aux infos qui fusent et qui font que ça va très très vite et que nous, en tout cas, c'est des ficelles qu'on avait envie de relever aujourd'hui parce que c'est des endroits qu'on a envie de creuser. Et puis, dans ce mouvement qu'on essaye de faire ici aux Infos Choisies, qui est un peu entre garder l'œil et les oreilles tendues dans tout ce qui est la grande médiatisation du monde ordinaire ou du grand dehors ou du grand public, comme on veut l'appeler, et aussi tout ce qui est produit, diffusé, fabriqué, plus dans des réseaux de médias libres. Et du coup, vous avez certainement, comme nous, été accablés face aux nouvelles qui viennent à propos de la culture du viol et de l'institutionnalisation de la culture du viol dans l'église catho, là chez les cathos. Bon, c'était des choses qu'on savait déjà, et en particulier grâce aux témoignages, aux mobilisations et aux luttes des personnes qui en ont été victimes depuis des siècles et des siècles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a une formalisation différente. Ça apparaît dans les médias différemment aussi parce qu'il y a des procédures en cours, en tout cas des formes de reconnaissance qui vont peut-être être établies d'une autre manière, sans quoi trop que cela vienne réformer ou assainir ce type de système, comme certains voudraient nous faire croire. Eh ben nous, la ficelle qu'on a envie de tirer, c'est celle qui fait le lien entre ce qui se passe dans l'église catho et puis la culture du viol en général dans nos sociétés, sa connivence étroite avec le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils existent ensemble, l'un n'existe pas sans l'autre, et plusieurs grosses médiatisations en ont été la preuve dans cette dernière année encore, comme par exemple à l'université, dans le monde des médias mainstream, l'industrie du cinéma, etc., ou dans les pouvoirs politiques, etc. En tout cas, nous, on veut être attentifs et suivre à voir est-ce que toutes ces médiatisations et ces formalisations-là servent les luttes qui sont pour nous beaucoup plus déterminantes et déterminées, en particulier les luttes féministes qui ne lâchent pas l'affaire et qui disent tout ça haut et fort depuis fort longtemps.
On va parler de la Kanaky avec la lecture de passage d'une lettre ouverte adressée par 10 organisations indépendantistes devant l'obstination du gouvernement français à maintenir le référendum au 12 décembre 2021, malgré la grave crise sanitaire qui la touche actuellement. On entend très peu parler de ce qui se joue là-bas, et cette lettre ouverte montre bien l'enjeu de ce référendum. Et le silence qui l'entoure en France laisse perplexe. Lettre ouverte du peuple kanak au peuple de France. Nouméa, le 23 novembre 2021. Chères Françaises, chers Français. Vendredi 12 novembre 2021, le haut commissaire de la République a annoncé la décision du gouvernement français de maintenir la date du 12 décembre pour la troisième et ultime consultation référendaire de l'accord de Nouméa sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Cette décision a été prise par le gouvernement français en toute conscience des implications et des conséquences délétères que ce choix ne manquera pas d'avoir. Cette décision a été prise par le gouvernement français alors même que les représentants politiques et coutumiers du peuple kanak avait explicitement demandé son report pour cause de deuil. Dire que nous sommes surpris serait mentir. Nous nous y attendions, mais comme toujours, nous espérions. Nous espérions que le gouvernement français, malgré 168 ans de colonisation, saurait pour une fois faire preuve d'humanité, de compassion, d'intelligence, de respect, de bon sens. Plus loin. Nous espérions et nous avions tort. Des questions viennent alors à l'esprit, auxquelles il va nous falloir absolument répondre dans les prochaines semaines, mais sans nous tromper cette fois, sans nous faire d'illusions sur l'humanité de l'État français et de son gouvernement.
Et bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes sur Radio Galère, et comme vous venez de l'entendre dans le générique, c'est les infos choisies, puisqu'on est vendredi et qu'il est 12h30.
La semaine a été chargée en émotions.
Oh oui.
Plus de 1000 dollars de profit par seconde pour Pfizer, BioNTech et Moderna, soit 65 000 par minute grâce à leur vaccin contre le Covid-19, ce qui fait un petit pactole de 34 milliards de dollars. Mmh. Bon bah,
ça fait pas
des
mal.
Fois, on regretterait presque de savoir compter, quoi. Bon, et après ça, donc, il faudrait logiquement qu'on croie que ceux qui disent penser à notre santé pensent vraiment à notre santé.
Mmh.
Et bien sûr.
Mais bien sûr.
Vous êtes toujours sur Radio Galère, 88.4 FM.
Mercredi 17 novembre à 10h31, j'ouvre ma boîte mail. Histoire de garder le contact avec la réalité. Tiens, un message de Pôle emploi. Je comprends pas. Il me semble que je me suis actualisée. J'ouvre sans lire l'intitulé. Et là, je tombe sur des grosses lettres en gras, typo funky. Les métiers de la sécurité. Pourquoi pas vous ? Horreur ! J'oscille entre la surprise et le dégoût, en espérant encore que c'est l'affaire d'un ami blagueur. Je regarde de plus près. Dans le cadre des 100% emploi, organisé par Pôle emploi, nous vous proposons un Facebook Live pour vous donner un maximum d'informations utiles pour impulser votre projet. Je bug. Alors, dans un premier temps, je me demande ce que c'est un Facebook Live, et ensuite, je trouve ça quand même délirant de réfléchir à mon avenir, enfin, de ce qu'il en reste, par le biais d'une interface commerciale. Je suis prise d'une terrible angoisse. Mais qu'est-ce qui a pu leur laisser penser que je pouvais avoir un projet dans les métiers de la sécurité, s'il te plaît ? Je me décompose en lisant la suite du message. Et vous allez souffrir avec moi. Au programme de ce live, prévention, surveillance, défense, enquête, contrôle, les métiers de la sécurité sont variés. Quels sont ces métiers ? Leurs conditions de travail ? Les critères incontournables pour postuler ? Comment me former ? Mais ça va pas les gars ou quoi ? Ils m'avaient déjà fait le coup en me proposant une offre d'embauche pour enregistrer les plaques d'immatriculation des véhicules amenés à la fourrière. Je m'étais déjà posé la question, mais qu'est-ce que j'ai pu mettre dans mon profil Pôle emploi ? Ils me font douter les cons. Bref, ils m'ont juste achevé avec la fin de leur message. Au plaisir de vous retrouver très prochainement lors de notre live. Mais plaisir pas partagé du tout.
Un ordinateur qui tombe en panne, la machine à laver qui fuit, des punaises de lit qui apparaissent sur le matelas, la grippe qui te cloue au lit, un pitbull qui t'attaque et plie la roue avant de ton vélo, tes lunettes retrouvées cassées, ton vélo adoré qui disparaît en bas de chez toi.
Tout ça en quelques jours. Ça fait beaucoup, c'est même trop. Et d'ailleurs, pourquoi toi ? Qu'est-ce que t'as fait pour mériter ça ? C'est pour ça que s'immisce en toi l'idée qu'il doit bien y avoir une raison, une explication de cet acharnement du sort contre toi. Alors, comment ça pourrait s'appeler cette accumulation de trucs chiants qui se passent la même semaine pour te la pourrir ? Cette sorte de force surnaturelle qui te met à l'épreuve et qui aiguise tes nerfs, ta patience et ton courage.
C'est la loi des séries. Non, c'est pas un concept Netflix. C'est une théorie scientifique. C'est aussi appelé la loi de Murphy.
Et si après tout ça, vous n'êtes toujours pas fatigué ou pas en hibernation, la semaine prochaine, mardi 14, aura lieu un vernissage donc au MUSEM, au Musée des Méditerranées, bien connu à Marseille. Mais c'est une expo dont on avait envie de vous parler aux infos, puisqu'elle va, elle va concerner l'épidémie de VIH-Sida, à laquelle notre ville a payé un lourd tribut. L'expo, elle s'appelle VIH-Sida, l'épidémie n'est pas finie, pardon. Elle va durer jusqu'en mai. Mais mardi, ce sera une des rares occasions pour vous de la voir gratos, puisque c'est le vernissage. Cette exposition a été préparée depuis de longs mois et de nombreuses personnes concernées par cette histoire et par la lutte contre le VIH ont mis leurs archives à disposition. Elle va retracer l'histoire sociale et politique de l'épidémie. Ça peut être pas mal si vous y allez, on est pressé que vous nous racontiez. Et ils vont demander le pass sanitaire aussi, bien sûr, puisqu'il s'agit du MUSEM.
«
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.